mission à toi s'appelle Faithfulness Keeping. Pour tes enfants, sois un papa responsable. Et pour ton couple,
partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices de Principe Actif. Donc c'est Amnesty International Évreux, comme vous venez de l'entendre, pour la première émission du mois de décembre. Je ne sais pas ce que fait notre technicienne, la Vincente, mais le son a changé dans mon casque. Je ne sais pas s'il a changé sur l'antenne, mais il a changé dans mon casque.
Il est très beau. C'est un très beau son.
Voilà. Donc ce soir, pour animer l'antenne, et à côté de moi, il y a Edith.
Bonsoir.
Et puis il y a moi à côté d'Edith.
Et puis après Didier, il y a Edith. Et puis à côté d'Edith, il y a Didier et Vincent.
C'est ça. Et Vincent qui nous fait la technique ce soir encore. On la remercie. Et on pense bien fort à Clarlys qui devait être avec nous ce soir. Mais
bon,
qui a un
courage.
Empêchement professionnel, donc voilà. Donc on pense bien à elle, on l'embrasse très fort et on espère qu'elle sera avec nous pour une très prochaine émission. Elle avait prévu bien évidemment de vous parler de la situation des réfugiés et des migrants à Évreux, mais ce sera pour une très prochaine fois. Voilà. Donc ce soir, on a quand même pas mal de choses à vous dire. Donc on va vous parler de la situation en Europe, des droits humains. On va vous dire quelques mots sur la Déclaration universelle des droits de l'homme.
C'était quand l'anniversaire ?
C'était hier. Voilà. Le 10 décembre, 70
bougies. Ça fait beaucoup. Hein.
Bon, on vous rappelle aussi à ce propos-là qu'on a fait une émission spéciale la semaine dernière, qui a été animée par Vincent, qui est en face de moi, et en direct du 13 bis sur ce sujet du 70e anniversaire de la Déclaration universelle, et que vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de la radio à la rubrique Fréquence droits humains. Donc, n'hésitez pas à la réécouter ou à l'écouter si vous n'avez pas pu l'écouter en direct. Voilà. On va vous en parler ce soir, mais on va vous en parler différemment de ce qu'on a dit à la radio l'autre fois. On va vous parler aussi de quelques bonnes nouvelles. On va vous parler de bonnes nouvelles au Zimbabwe, entre autres, et puis aussi concernant le Yémen, si je ne m'abuse.
Voilà, une demi-bonne nouvelle, mais...
Une demi-bonne nouvelle.
Mais oui, parce que la situation au Yémen reste toujours compliquée, mais voilà, une bonne décision d'un pays.
Et puis aussi, on a un appel à l'action aussi qui concerne la Chine, avec des militants syndicaux qui sont enfermés en Chine. Voilà. Donc, de quoi meubler sans problème toute l'heure qui vient. Et surtout de vous conseiller de rester à l'écoute et de rester avec nous. Voilà. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, ça me rappelle une vieille chronique qu'il y avait à la radio quand j'étais petit, ça vous n'êtes pas sans savoir. Tiens, pour les jeunes auditeurs, connaissent sûrement pas. Mais bon, ça commençait toujours comme ça, c'était une économiste, ça n'a rien
ça
à voir
dire,
avec l'émission de ce soir.
Je vais vous parler de quelque chose,
voilà.
Allez, soyons simples.
C'était une économiste ou je ne sais plus qui commençait toujours en disant « Vous n'êtes pas sans savoir ». Donc, voilà. Donc ce soir, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un mouvement en France de contestation. Qui s'appelle les Gilets jaunes. Bon, ça fait la une de l'actualité, et même plus que ça depuis, je ne sais plus quand, le début novembre, je sais plus,
quatre semaines
d'action. Et donc, même si c'est un sujet qui est un petit peu différent de la défense des droits humains, quoique, il y a une amnistie qui a publié aujourd'hui, donc c'est très récent, qui a publié un communiqué qui est signé par notre secrétaire général qui s'appelle Kumi Naïdo et qui parle effectivement de cette actualité française.
Alors, Kumi Naïdo, il vient de quel pays ?
Il vient d'Afrique du Sud.
Bien.
Voilà. Il est secrétaire général d'Amnistie depuis le mois d'août dernier. Et donc, il a parlé de ça. Donc, il dit en France ne pas opposer justice sociale et protection du climat. Alors, je vais vous lire son communiqué, c'est pas très long. Avant de décider de changements économiques ou fiscaux importants, les gouvernements doivent prendre dûment en compte les répercussions sur les citoyens déjà fragiles d'un point de vue économique. La France est ébranlée par des manifestations déclenchées par la hausse annoncée de la taxe carbone sur les carburants dans le cadre d'une réforme économique plus vaste. Au cours du dernier week-end de décembre, la contestation est montée d'un cran et l'on dénombre des centaines de blessés parmi les manifestants et les forces de l'ordre. Le mouvement spontané à l'origine des manifestations s'est baptisé les Gilets jaunes. Depuis quelques semaines, ces rangs ne cessent de grossir. De plus en plus de citoyens qui peinent à survivre avec de maigres salaires et sont menacés par l'érosion de la protection du travail se rassemblent pour exprimer leur colère face au programme économique que propose le gouvernement français. Une partie de la jeunesse s'est également mobilisée et manifeste, des lycéens et des étudiants bloquant leurs établissements ou leurs universités. Petite parenthèse, j'ai appris que depuis hier, c'était le cas à Aristide Briand. Je ne sais pas pour les autres
et
lycées.
Et au Canada aussi.
Au Canada aussi, oui, oui. Voilà. Face à ce mouvement à multiples facettes, donc c'est toujours Cumin Aïdo qui parle, le gouvernement du président Emmanuel Macron a abandonné l'abandon de la hausse des taxes sur les carburants. Pourtant, rien ne semble indiquer que les tensions vont s'apaiser rapidement en raison du fossé inégalitaire qui se creuse entre les riches et les pauvres dans le pays. Les manifestations se polarisent autour d'un débat déjà dangereusement clivé sur le changement climatique, les droits humains et la nécessité de protéger les plus marginalisés et les plus défavorisés au sein de nos sociétés. Certaines organisations écologistes, actuellement réunies au sommet de l'ONU sur le changement climatique en Pologne, craignent que le rétropédalage d'Emmanuel Macron, sur les taxes n'envoie un mauvais signal au moment où le monde doit redoubler d'efforts pour sortir des énergies fossiles. Parallèlement, certains responsables politiques cherchent à tirer parti de la situation.
Je vois de qui tu vas parler.
Voilà, le président Donald Trump, il y a longtemps qu'on n'ait pas parlé de lui, tiens, s'est jeté dans la mêlée avec ce tweet publié le mardi 4 décembre. Alors, citation de Donald Trump. « Je suis heureux que mon ami Emmanuel Macron et les manifestants à Paris soient tombés d'accord sur la conclusion à laquelle j'avais abouti il y a 2 ans. L'accord de Paris est fondamentalement mauvais car il provoque une hausse des prix de l'énergie pour les pays responsables tout en donnant à blanc-seing à certains des pires pollueurs du monde. » Fin de citation. Le président Donald Trump, comme d'autres climato-sceptiques, préfère centrer le débat sur un choix entre lutter contre le changement climatique ou protéger les gens et les emplois. Protéger les moyens de subsistance des populations, leur permettre de vivre dans la dignité et stopper le changement climatique font partie d'un seul et même combat. En effet, l'accord de Paris reconnaît la nécessité d'intégrer la protection de l'environnement à la réalisation des droits économiques et sociaux, tels que le travail, le revenu de vie et la santé. Comme dans de nombreux pays, nous craignons que les travailleurs pauvres en France, donc c'est toujours Cumin Aïdo qui parle pour Amnesty, donc que les travailleurs pauvres en France soient les plus exposés aux effets néfastes du changement climatique, tels que la hausse de la pollution et les problèmes de santé qui en découlent du fait du manque de ressources. Autour du monde, nous constatons que ce sont les plus pauvres qui ont les plus grandes difficultés à survivre et ensuite à redémarrer chaque fois qu'ils sont frappés par un événement climatique. Le gouvernement français doit mettre en place une politique de protection du climat qui réduise les inégalités au lieu de les accentuer. Il s'agit notamment d'allouer des subventions, non de décréter des sanctions, pour permettre aux citoyens de passer à des sources d'énergie renouvelable. Le poids de la transition doit incomber aux entreprises d'énergie fossile plutôt qu'aux consommateurs, surtout s'ils ont des revenus faibles. Nul au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron, pas même le président, ne prônerait ouvertement l'idée que les travailleurs pauvres de France devraient littéralement régler la note de la décarbonation du pays. Avant de décider de changements économiques ou fiscaux importants, les gouvernements doivent prendre dûment en compte les répercussions sur les citoyens déjà fragiles d'un point de vue économique. Ironie du calendrier, cette crise éclate à la veille de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains, la toute première déclaration mondiale de droits adoptée et signée par les gouvernements à Paris le 10 décembre 1948. 70 ans après son adoption, nous assistons à une montée de l'intolérance, à des inégalités extrêmes, à un recul des protections en matière des droits humains, associé à un défaut d'urgence s'agitant d'agir plus vite face au changement climatique. De bien des façons, comme le montrent les troubles en France, nous risquons de créer un monde que les gouvernements qui ont adopté la déclaration au lendemain de la Seconde Guerre mondiale s'étaient jurés d'éviter. Les citoyens du monde entier ont grand besoin que leurs leaders fassent preuve de la même direction éclairée en matière de droits humains que les rédacteurs de la déclaration, tout particulièrement face à la crise climatique à laquelle nous sommes tous confrontés. Voilà. Donc c'est important de bien noter que Kumi Naido et Amnesty font bien un parallèle entre la nécessité de, bien sûr, d'un changement climatique, mais aussi que ce changement climatique doit se faire dans un changement de plus grande égalité et de sociale et de diminution des injustices et des inégalités à ce niveau-là.
Voilà, on peut dire qu'à Évreux, samedi, il y avait une marche pour le climat et il y avait aussi les Gilets jaunes avec les gens de la marche pour le climat. Et on est tous dans le même objectif de changer le système. Voilà, et c'est ce qu'il faut faire pour que tout le monde puisse avoir un espoir en avenir et les enfants et les jeunes.
Oui, et si tu peux me permettre un petit commentaire, Edith, ça m'a fait penser à une chose que j'ai entendue. Qui va un peu dans le sens, toujours au sujet des Gilets jaunes, qui va un peu dans un sens différent de ce qu'a dit Kumi Naido sur la nécessité de meilleure justice sociale et de progression de écologique, dans le combat écologique. Mais ça me rappelle aussi des déclarations qui ont été dites par certains Gilets jaunes. Alors, il ne faut pas faire d'amalgame, hein, c'est pas du tout pour dire que l'ensemble de ce mouvement pense la même chose, mais puisqu'on parle aussi de la Déclaration universelle des droits de l'homme et que tu vas nous en parler, qu'il y a eu des déclarations absolument qui étaient inadmissibles de la part de certains d'entre eux. Je pense entre autres aux migrants qui avaient été trouvés dans des camions il y a quelques semaines et qui, certains Gilets jaunes, disant effectivement qu'ils les avaient livrés à la police, c'était une chose, et qui disant qu'effectivement que c'est, en gros, je cite de mémoire, hein, mais que ces salauds-là étaient venus effectivement pour profiter de notre situation ici. Voilà,
il y a de tout. Et il y a effectivement une. Ce qui manque aussi, c'est un regard un petit peu à moyen terme et des explications claires par rapport à la situation, effectivement, des migrations par rapport au risque du climat, par rapport qui va arriver forcément, des migrations écologiques qui vont arriver. Donc là, il faut quand même que tout le monde puisse discuter ensemble, se poser la question et une politique de l'accueil. On va revenir sur la même chose. C'est vraiment
fait.
Le problème de la politique de l'accueil, aussi bien pour les migrants économiques, les migrants, les demandeurs d'asile, que les migrants, on va dire écologiques, je cherche le terme.
Oui, des migrants climatiques.
Climatiques, voilà.
Et c'était aussi en pensant à ce qui va être dit tout à l'heure dans l'émission sur, vous allez comprendre pourquoi, que j'y pensais, parce qu'effectivement, avant d'employer des formules extrêmement violentes par rapport à d'autres, il faut commencer par se renseigner et pas dire n'importe quoi, n'importe comment.
Donc moi, ce que je voudrais juste faire un tout petit point par rapport à cette fameuse déclaration, donc 70 ans, c'est un âge respectable, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 1948? Alors ça va être rapide, ça va être un petit catalogue de traités. Alors, une petite différence, la Déclaration universelle des droits humains, elle n'est pas, elle ne fait pas force de loi, c'est une déclaration, c'est un accord entre les pays. Là, les traités, ce sont des textes qui ont été adoptés et qui ont été ratifiés par des pays, et là, dans les pays qui les ont ratifiés, ils font force de loi. Et c'est sur ces traités-là, la plupart du temps, que Amnesty s'appuie quand on demande ou quand on montre à certains pays les violations des droits humains. Alors, depuis ces années, donc, on va commencer en 1950. C'est la Convention européenne des droits de l'homme qui a été adoptée. Puis, la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid en 1973. Effectivement, l'époque où l'apartheid au niveau de l'Afrique du Sud était vraiment un grand sujet d'actualité. Aussi, contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants. Ça, c'est en 1984. Ou encore, protection pour toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2006. Le droit international commence aussi à prendre en compte la responsabilité des entreprises, avec l'adoption en 2011 des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. C'est la mise en œuvre du cadre de référence, protéger, respecter et réparer des Nations Unies. Je pense que Didier aura une petite info aussi sur la responsabilité des entreprises.
Oui.
Alors aussi, ce qui s'est passé, c'est une grosse campagne, enfin un gros travail d'Amnesty et des autres ONG par rapport pour arriver en 2014 au traité sur le commerce des armes. Des outils puissants et importants ont été créés pour faire reculer l'impunité et juger les personnes, quelle que soit leur fonction, pour des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Ces crimes qui sont devenus imprescriptibles. Création aussi du tribunal pénal international pour le Rwanda, l'ex-Yougoslavie, ainsi que l'entrée en vigueur du statut de Rome et la création de la Cour pénale internationale. Autre combat très important, le combat contre le recours à la peine de mort est devenu universel avec 142 pays abolitionnistes en droit ou en pratique. Le bilan des objectifs du millénaire adopté en 2000 par les États membres de l'ONU a mis en lumière un recul important de l'extrême pauvreté dans le monde. Ces 70 ans ont vu l'essor d'une société civile enthousiaste, forte, mondiale, véritable contre-pouvoir des autorités et des lobbies traditionnels. Voilà, un rapide catalogue.
Un rapide survol, effectivement, de différentes avancées depuis que cette déclaration universelle a été signée. Mais effectivement, c'est utile parce que quand on est actuellement dans un climat où les droits humains ont tendance à quand même être assez maltraités à droite et à gauche, voilà, c'est important de rappeler effectivement des points d'avancée très positifs par rapport à ce qui s'est passé. On n'est pas naïf. Edith vous a parlé par exemple du traité sur les armes. On sait très bien que les pays qui l'ont signé font, et on vous en a parlé pendant les précédentes émissions, à commencer par la France qui continue à vendre des armes en Égypte et en Arabie Saoudite, bien évidemment. Donc les pays qui l'ont signé essayent de ne pas respecter leur signature, mais on continue à faire pression pour que ça change.
Voilà, on peut aller voir sur le site d'Amnesty, on n'en parlera pas ce soir, mais par rapport à l'Égypte, il y a toute une enquête qui montre, avec des photos, avec des articles, que les blindés français ont participé à la répression en Égypte. Donc, allez voir, c'est intéressant. Ils ont vraiment fait une enquête très approfondie et on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, on ne le savait pas.
Bien. Je crois, Edith, que tu voulais nous parler aussi de quelqu'un qu'on défend en groupe, qu'on soutient en groupe d'Amnesty depuis à peu près 2 ans maintenant.
Voilà, c'est June. June, c'est une avocate thaïlandaise. Alors, son vrai nom, attendez, je m'applique, c'est Sirikan Charo Eng Siri. Et alors, comme elle a un petit diminutif June, c'est June quand on en parle entre nous. Donc, c'est une avocate qui a été soutenue par Amnesty et on a demandé au groupe, à certains groupes, de faire un suivi avec elle, de la soutenir. Et nous, sur le groupe d'Evreux, on a décidé de le faire, effectivement, depuis 2 ans. Donc, elle est venue très peu de temps à Paris, mais on n'a pas pu se la voir. Mais elle a pu faire des conférences et expliquer un peu ce qui se passe en Thaïlande. Donc elle est avocate et elle est aussi cofondatrice du Thai Lawyer, Didier, aide-moi, for Human Rights. C'est les avocats pour les droits humains thaïlandais.
L'association des avocats pour les droits humains.
Une ONG de défense des droits humains. Donc la Thaïlande, depuis 2014, c'est un gouvernement avec un commandant en chef d'armée. Donc, c'est un régime militaire. Et en fin de compte, pour bien vivre en Thaïlande, c'est taisez-vous, ne prenez pas la parole, ne serait-ce que dans un mail privé ou sur un réseau social. Sans ça, attendez-vous au pire. En 4 ans, 1138 personnes ont été envoyées dans des camps militaires pour des séances. J'aime bien, moi, l'humour un peu de ces appellations. Des séances de changement d'attitude. On pourrait dire rééducation politique.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Et là, il y a une échéance importante, c'est des élections générales annoncées pour le 24 février 2019. Le climat politique est très tendu et laisse planer quelques doutes quant à la tenue d'un scrutin libre et équitable. Il y a effectivement, depuis que les militaires ont pris le pouvoir, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées devant une cour militaire civile pour une raison ou une autre. June elle-même est sous le coup de 3 inculpations liées à sa défense de manifestations et de manifestants étudiants. Et si on ajoute à cela, comme l'explique Sirikan, des lois sur la sécurité informatique qui confine à une surveillance généralisée de la population. Un simple partage de mails ou sur des réseaux sociaux suffit à vous envoyer en prison. On comprend que le résultat du vote à venir semble acquis d'avance. Mais June, quand même, elle nous met une interrogation car elle Il y a beaucoup de jeunes qui vont voter pour une première fois et eux, ces jeunes-là, ne comprennent pas pourquoi on les prive de des libertés. Elle en veut pour preuve un clip vidéo posté sous YouTube par un groupe rap dénonçant pêle-mêle la corruption, le népotisme, le manque de liberté et de transparence. Il a été vu, écoutez bien, des dizaines de millions de fois. Alors, le gouvernement militaire a répondu avec son propre clip intitulé « Thaïlande 4.0 ». Résultat, 183 000 vues à la date du 7 novembre, mais une majorité de pouces tournés vers le bas. Alors, on va continuer.
C'est quoi des pouces tournés vers le bas ?
C'est qu'on n'aime pas.
Ah, c'est quand on met un vote, c'est ça, en disant qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas ?
Voilà, donc ça a été vu, mais voilà, ça n'a pas... Donc, on peut espérer qu'il y aura...
Je voulais te poser la question, mais je savais un peu la réponse.
Bah oui, t'es quand même un peu dans le coup. Donc voilà, nous on va suivre June bon, déjà.
On continuera de la soutenir. Et elle a dit dans son intervention quand elle est passée à Paris qu'elle était très sensible au groupe qui agissait pour elle. Elle nous a tous remerciés. On ne dit pas ça du tout pour tirer la couverture à nous, mais c'est important, le soutien par rapport aux gens dont les droits sont menacés, c'est même fondamental.
Et puis vous, auditeur de Principe Actif, si vous avez envie qu'on lui fasse parvenir un petit texte ou une petite carte postale, voilà, il n'y a pas de souci, on peut lui envoyer et ce ne sera que du plaisir.
Envoyez un mail sur amnesty.evreux@gmail.com et on vous répondra avec beaucoup de plaisir. On va peut-être écouter maintenant quelques minutes de musique avant de revenir à l'antenne. Sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux. On vient d'entendre Fatoumata Diawara, chanteuse et artiste malienne, très engagée aux côtés d'Amnesty depuis quelques années, un morceau qui s'appelle Bonia. Et pour les spécialistes, il y avait parmi les musiciens quelqu'un qu'on connaît ici qui s'appelle M. Mathieu Chédid, qui jouait avec elle. Voilà. On va vous parler, donc on va continuer pour vous parler de l'état des droits humains en Europe, mais avant je voulais...
Je pense que tu avais envie de rebondir voilà. sur ce qu'on a dit sur le droit des entreprises.
Le droit des entreprises et l'injustice sociale dont vous parlez tout à l'heure, le communiqué de... J'ai oublié son prénom, je suis désolé. De CUMI, notre secrétaire international, et de l'affaire des Gilets jaunes. Donc il y a une émission ce soir sur Arte, c'est pas souvent qu'on vous parle de télévision dans les émissions d'Amnesty, mais là ça me paraît important. Une émission sur Arte qui passe à 22h30 et qui s'appelle « Quand les multinationales attaquent les États ». Et ça parle de quelque chose. Alors si vous réécoutez notre émission qui est « Fréquence droits humains » sur la Déclaration universelle, il y a le journaliste qu'on avait invité, qu'on a parlé un petit peu. Et ça reprend un peu la même idée. C'est la possibilité qu'ont maintenant les entreprises d'attaquer les États pour des décisions qu'ils prennent concernant la réglementation et qui font que les États peuvent être condamnés à des sommes absolument colossales. Parce que, soi-disant, la rentabilité de cette multinationale va être remise en cause. Alors, ce qui est expliqué dans le juste, je vais vous lire une phrase qui l'explique bien, ce qui est expliqué dans la présentation de ce film, c'est un exemple qui est cité. Si l'État relève le SMIC, passe une loi anti-OGM ou interdit les perturbateurs endocriniens, il prive une entreprise de gains potentiels, c'est une expropriation indirecte. Et c'est sur des choses comme ça, c'est absolument scandaleux quand on y pense, c'est sur des choses comme ça que les multinationales attaquent dans des tribunaux administratifs et financiers des États qui sont condamnés à payer de très lourdes amendes. Voilà.
Voilà.
Donc
alors,
ça a forcément des conséquences.
Je pense qu'on peut dire que quand même on s'est battu contre cette loi.
Oui.
Cette loi, elle est passée il y a pas très longtemps en France. C'est le secret des affaires et c'est une loi qui est vraiment très liberticide, aussi bien pour les journalistes qui ne pourront plus faire d'investigation parce qu'on va le, effectivement, il pourra y avoir aussi porter plainte les entreprises que pour l'État et pour c'est mettre en avant tout ce qui est je sais pas comment dire, capitaliste quoi. Simplement,
oui,
c'est-à-dire que...
Il faut appeler un chat un chat, bien sûr.
Et
c'est la logique capitaliste.
Et ce sont des tribunaux privés, je pense. Donc,
oui,
qui
c'est des tribunaux privés, tout à fait.
Complètement
tribunaux...
clarté pas très transparente. Pour,
voilà. C'est marqué dans la présentation de l'émission, ce sont des tribunaux d'arbitrage internationaux. Voilà. Et qui restent inconnus pour la plupart d'entre nous. Bon, oui, forcément, ils n'ont pas tellement envie, ça, ça.
Donc,
plus,
écoutez, ce sont nos députés qui ont voté cette loi, même si les ONG ont fait quand même un travail d'information autour. Donc, vous pouvez aller voir vos députés, leur demander s'ils l'ont fait.
Nous, on leur avait écrit
à ce moment-là.
Oui,
mais
on n'a pas eu de réponse.
Voilà.
Donc, je rappelle le titre de l'émission, ça s'appelle « Quand les multinationales attaquent les États ». Et ça passe ce soir sur Arte à 22h30. Voilà. On parle de la situation en Europe.
Alors oui, là, on va se passer la parole avec Didier parce qu'il y a eu tout un article sur le site d'Amnesty sur la situation en Europe en 2018 et il n'y a rien acheté. Hein. Tout est bon. Tout est...
Ah, dans l'article, tu veux dire.
Ah ben dans l'article, donc on va tout vous dire. Bon, comme on n'est que deux, on va se partager le texte parce qu'on a trouvé que c'était vraiment un état des lieux actuel en Europe, donc aussi par rapport aux droits humains, mais par rapport à des mouvements de réflexion ou à des habitudes qui nous dérangent quand même en tant que défenseurs des droits. Donc c'est moi qui vais commencer.
Oui.
Donc l'année 2018 a été marquée par de nombreuses atteintes aux droits humains en Europe. Les cibles principales, la liberté d'expression et les réfugiés. Et pourtant, le militantisme progresse et la contestation s'amplifie. L'Europe, c'est plus qu'un simple continent sur une carte géographique. Elle constitue une idée, façonnée au fil des millénaires, nourrie par d'innombrables cultures et traditions, renouvelée par des mouvements de population, confortée par des valeurs partagées et une histoire commune. Malheureusement, l'Europe fait actuellement face à une offensive nourrie menée de l'intérieur contre les droits humains. La montée de l'intolérance, de la haine et des discriminations sur fond de rétrécissement de l'espace dévolu à la société civile entraîne une déchirure de plus en plus importante au sein même du tissu social de la région. la politique de la peur, portée par des dirigeants qui véhiculent un discours vénéneux, accusant telle ou telle catégorie d'être responsable des problèmes sociaux ou économiques, sème la discorde parmi les citoyens. Les défenseurs des droits humains, les militants, les médias et l'opposition politique sont harcelés par des pouvoirs publics. Ces hommes et ces femmes sont visés par des poursuites pénales, voire pris pour cible par des groupes adeptes de la violence et agissant en toute impunité. Dans une grande partie de l'Europe, la prétendue crise des réfugiés et les réactions indignes qu'elle a suscitées est particulièrement révélatrice. Elle fait l'effet d'un miroir reflétant de tristes réalités. Les demandeurs d'asile, les réfugiés et les migrants sont rejetés ou confinés dans des conditions sordides, tandis que progressivement, les actes de solidarité sont criminalisés. Des enfants sont abandonnés à eux-mêmes. L'absence de toute politique cohérente découlant d'une approche du chacun pour soi de la part des pays européens laisse les États situés en première ligne comme la Grèce assumer seuls l'accueil de dizaines de milliers de personnes réfugiées et migrantes. Les accords douteux conclus pour externaliser les responsabilités et renforcer la forteresse Europe sont contraires au droit international. La prétendue crise, ainsi que les politiques d'austérité menées dans la région, servent désormais de tremplin à un nombre croissant de politiciens opportunistes. Sous prétexte de lutter contre l'establishment, ils pratiquent la diabolisation des plus marginalisés qu'ils pourchassent, désignent à la vindicte populaire et déshumanisent. On va nommer quelques pays. La Hongrie, qui est ainsi devenue la championne de l'intolérance. Son premier ministre, Viktor Orban, et la formation au pouvoir Fidesz intensifient l'offensive contre les droits humains, revendiquant fièrement les atteintes au droit international qu'ils commettent. Le gouvernement hongrois s'en prend directement et ouvertement aux migrants et aux réfugiés, restreint le droit de manifester pacifiquement, transforme le fait d'être sans abri en une infraction pénale et adopte des lois draconiennes sanctionnant les activités légitimes en lien avec les migrations, menaçant l'existence même de la société civile. Autre pays, la Pologne. L'espace de la contestation se rétrécit face à une législation qui réduit le droit de manifester. Aux poursuites entamées contre centaines de manifestants non violents et à l'extension des pouvoirs de surveillance des services chargés de l'application des lois. Les autorités s'en prennent systématiquement à l'indépendance de l'appareil judiciaire, qu'elles affaiblissent et suppriment les mécanismes et les garanties de protection des droits fondamentaux, soumettant le pouvoir judiciaire à une ingérence politique. Les magistrats qui critiquent les mesures prises par le gouvernement ou demandent à la Cour de justice de l'Union européenne de se prononcer sur leur compatibilité avec le droit communautaire sont, eux, victimes de manœuvres, de harcèlement et de procédures disciplinaires. Parallèlement, certains pays de la région connaissent aujourd'hui un véritable climat de peur. En Turquie, depuis la tentative du coup d'État manqué de 2016, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, dont des journalistes, des défenseurs des droits humains et des militants, ont été arrêtés arbitrairement pour avoir critiqué les autorités, sans qu'il existe à leur encontre la moindre preuve qu'ils aient commis des actes susceptibles d'être considérés comme illégaux. Des ONG et des journaux ont été fermés. Et plus de 130 000 salariés de la fonction publique ont été arbitrairement licenciés au terme de décrets pris dans le cadre de l'état d'urgence. Taner Kılıç, le président honoraire d'Amnesty International Turquie, a lui passé plus de 14 mois en prison. Libéré en août dernier, il fait toujours l'objet de poursuites pénales sans le moindre fondement en raison de son action en faveur des droits humains. Un peu partout en Europe, des groupes qui n'hésitent plus à prôner la haine et la discrimination se font une place sur la scène politique, aux côtés des partis traditionnels. Ces derniers s'imprègnent quant à eux de leur leurs idées et reprennent à leur compte leur discours d'exclusion. Alimentés par certains responsables politiques et une presse prompte à encourager les divisions, l'apologie de la haine et de l'intolérance tend à se banaliser.
Alors où certains acteurs majeurs se retirent des mécanismes internationaux de protection des droits humains, lorsqu'ils ne cherchent pas à saper leur action, l'Union européenne et ses États membres sont sommés de renforcer leur engagement en faveur des droits humains fondamentaux dans le cadre de leur politique étrangère. Dans l'état actuel des choses, la crédibilité de l'Union européenne est malheureusement menacée par sa propre incapacité à respecter ses droits sur son territoire. Quelques initiatives positives ont certes été prises, telles que le déclenchement de l'article 7 par la Commission européenne et le Parlement européen, permettant d'entamer une procédure contre la Hongrie et la Pologne en réponse à l'adoption par ces deux pays de mesures portant atteinte au respect des droits humains. L'Union européenne a également fait des progrès en matière de soutien et de protection de défenseurs des droits humains dans certains pays, mais il reste beaucoup à faire à cet égard dans toute la région. Concernant les migrations, les institutions européennes n'ont adopté aucune mesure décisive, voire ont pris des décisions qui n'ont fait qu'aggraver la situation. À la suite de l'accord passé entre l'Union européenne et la Turquie, par exemple, des milliers de personnes réfugiées et migrantes se sont retrouvées bloquées sur certaines îles grecques, dans des conditions déplorables et même dangereuses. En Méditerranée centrale, les gouvernements européens, qui ont demandé sans état d'âme à la Libye de se charger des contrôles aux frontières, se rendent complices des souffrances infligées aux candidats à l'immigration. En encourageant les autorités libyennes à s'opposer aux traversées, à gêner les secours et à ramener les gens dans de sinistres centres de détention en Libye même, l'Union européenne sape les efforts de recherche et de secours et expose des hommes, des femmes et des enfants à un risque réel de torture. Dans le même temps, la Cour européenne des droits de l'homme voit son indépendance et son autorité de plus en plus menacées. Souvent par calcul politique, certains États refusent d'appliquer des décisions, pourtant contraignantes, de la Cour, suscitant au niveau national des problèmes systémiques et structuraux graves qui permettent aux violations des droits humains de se perpétuer. Pourtant, note plus positive, malgré ce climat marqué par des discours xénophobes et des politiques répressives, il reste des raisons d'être optimiste. Le militantisme progresse et la contestation s'amplifie. Une véritable lame de fond, composée de gens ordinaires animés par une passion extraordinaire, se soulève en faveur de la justice et de l'égalité. Par leurs actes, toutes ces personnes contribuent à définir le type de continent dans lequel elles aspirent à vivre. Et leur courage est contagieux. Parmi elles, des journalistes, des universitaires, des artistes, des magistrats, des avocats et de simples citoyens et citoyennes de tous les horizons, mus par un même sentiment de compassion et une même indignation devant l'injustice et les souffrances. En période de répression, il est plus dangereux, mais aussi plus essentiel que jamais, de se mobiliser pour défendre les droits humains ou dénoncer les injustices. Celles et ceux qui expriment leurs convictions deviennent autant de symboles d'espoir pour les autres. Si nous ne nous tenons pas à leur côté, qui demain sera encore là pour revendiquer ce qui est juste? Les dirigeants européens doivent se positionner en première ligne et au centre du terrain, en leur apportant clairement leur soutien et en dénonçant celles et ceux qui les attaquent. Nous ne pouvons pas garder le silence. Nous ne nous tairons pas. Nous sommes responsables non seulement de ce que nous disons, mais aussi de ce que nous taisons. Voilà, donc ça, je pense qu'effectivement, comme tu disais, c'est un texte fondamental, hein, ça, qui fait un bon état des lieux et qui se conclut quand même sur une note d'optimisme, même si la situation en général est quand même sur beaucoup de plans inquiétante. Et comme on vous a parlé du soutien, ça me a donné l'envie, alors on n'est pas prévu de vous en parler tout de suite, mais je pense que c'est un petit peu plus logique, ça va être très court, du soutien qu'on peut apporter aux défenseurs des droits humains. Et moi, j'ai reçu une lettre de Idi Lézère, le temps que je remette
la main
dessus.
Je voudrais juste, avant que tu lises, pendant que tu cherches, c'est juste la dernière phrase, c'est quand même, nous ne pouvons pas garder le silence, nous ne nous tairons pas. Nous sommes responsables non seulement de ce que nous disons, mais aussi de ce que nous taisons. C'est Aziz Mezin, un écrivain turc. On va lui redonner sa petite phrase, oui. Même si on l'adopte oui. volontiers.
On va rendre à César ce qui appartient à César, comme dit le proverbe.
Voilà, tu as retrouvé ton c'est très juste. Petit oui, message oui, personnel.
Donc, on parlait effectivement de gens qui s'engagent pour défendre les droits, hein, ce qui est notre raison d'être à Amnesty, on vous le dit depuis des années. Et donc, on avait soutenu Eddie Lezer, qui est l'ancienne directrice d'Amnesty Turquie, qui elle-même aussi a fait un séjour en prison l'année dernière, qu'on a défendu. Et comme je lui avais envoyé un petit message de soutien, bah, elle a répondu par un mail à tous ceux qui l'avaient aidé. Et voilà ce qu'elle m'a
écrit. Ouais, mais c'était marqué pour Didier, alors oui. C'est pour lui perso.
Oui, non, c'est envoyé à tout le monde, mais bon. Donc voilà ce qu'elle m'a écrit. Vous m'avez aidé à retrouver la liberté lorsque je fus emprisonné par le gouvernement turc pour avoir agi pour les droits humains. Aujourd'hui, je vous demande d'agir pour d'autres femmes. C'était aussi dans le cadre de 10 jours pour signer, on pourra en dire un mot à la fin. Donc aujourd'hui, je vous demande d'agir pour d'autres femmes qui font face à l'injustice simplement parce qu'elles prennent parti pour la justice. Nonle, Atema et Vitalina sont en danger maintenant, emprisonnées ou mises en danger pour leurs actions pour les droits humains. Tragiquement, Marielle fut tuée pour avoir défendu les droits de sa communauté. Nous devons exiger que les assassins de Marielle soient traduits en justice et que Athéna, Nonle et Vitalina soient en sécurité. Je n'oublierai jamais, donc c'est toujours Idil qui parle, je n'oublierai jamais le jour où je fus arrêté. La police turque m'a arrêté lors d'un atelier sur les droits humains en 2017. J'étais directrice d'Amnesty Turquie et très au fait des injustices. Mais quand cela vous arrive à vous-même, vous en perdez le souffle. D'autres défenseurs des droits humains et moi-même furent accusés d'avoir aidé une organisation terroriste. Nous passâmes 4 mois en prison. Mais nous avions l'espoir. Les militants d'Amnesty, comme vous, partout dans le monde, protestaient et agissaient pour notre libération. Et aujourd'hui, nous sommes libres et tellement reconnaissants. Sans vos efforts, nous ne serions pas là. C'est pour cela que j'agis pour les autres et que j'espère que vous me rejoindrez. Voilà.
Alors, juste une explication, le nom oui. des femmes
oui,
le nom qui des sont femmes. Dans cette lettre, ce sont les femmes pour lesquelles on vous engage très très fortement de signer, elle allait signer, donc on était à Évreux samedi matin.
Samedi dernier, oui, toute voilà. la journée, on est resté
oui,
la fin
oui, toute la journée.
Courageusement sous la pluie.
Moi, j'ai fait un petit peu autre chose après-midi, j'ai été manifestée pour le climat, je ne faut pas oui, le dire, mais on c'est était aussi
voisins.
Pareil.
En plus, on était voisins, donc voilà, c'est tout à fait symbolique.
Voilà, et donc vous pouvez aller signer sur le site d'Amnesty pour toutes ces femmes et lire un peu...
Jusqu'à la fin du mois. Il y a 10 voilà. cas de femmes défenseurs des droits humains dans le cadre des 10 jours pour signer. Si vous en avez parlé à l'émission du mois de novembre.
Et si vous êtes des jeunes, ben la semaine prochaine, au lycée Aristide Briand, vous pourrez signer aussi.
Tout à fait. Tous les lundis midi devant le self, si vous êtes lycéen. Lundi, mardi, jeudi et vendredi. Voilà, pour ces femmes dont on vient de vous parler. Donc tout ça pour vous dire que la mobilisation, c'est important et que quand on se mobilise, effectivement, on fait bouger les choses, chose que les gens ont toujours tendance à oublier. On avait prévu de parler de quoi, Edith
oh, bah, peut-être une petite pause, hein, oui. et puis après des bonnes nouvelles.
Des bonnes nouvelles, et puis notre voilà. actualité locale. Voilà. Un petit mot sur le pacte migrant, quand même,
oui,
mais
oui,
très
oui,
rapide.
Quand même. Oui, on a envie d'en parler quand
mais
même.
Mais quelques
oui.
minutes de musique. Je fais un clin d'œil à Vincent, qui nous regardait, mais qui nous a envoyé le disque.
Close my eyes and make it go away. How long must we sing this?
retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International Évreux. On vient d'entendre un autre groupe qui soutient Amnesty depuis très longtemps, U2, dans Bloody Sunday. Un disque qui n'est pas récent, mais qui est toujours sympa. Voilà. Pas les paroles, mais je ne vous les traduirai pas. Les paroles parlent d'un événement dramatique, mais je ne vous le traduirai pas non plus. Edith, tu avais quelques bonnes nouvelles ?
On avait dit bonne nouvelle un petit peu. Alors la mienne, moi, je suis désolée, c'est une demi-bonne nouvelle, parce que ça parle du Yémen, et malheureusement, au Yémen, la situation est très, très, très grave, avec des risques de famine hyper importants. Il y a toujours... on prend pour cible les écoles, les civils, les hôpitaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un pays comme le Danemark a décidé de suspendre toutes les exportations d'armes et d'équipements militaires vers l'Arabie Saoudite. Bon, vraiment, il n'y en avait peut-être pas beaucoup. Je ne sais pas la quantité d'armes qui étaient vendues, mais c'est une décision de gouvernement, une décision politique. Alors, on pourrait rêver, là, c'est bientôt Noël, on va rêver qu'un petit pays peut faire la différence et jouer un rôle pour persuader d'autres États de prendre fermement position contre les violations massives des droits humains auxquelles se livre l'Arabie Saoudite à l'intérieur du pays et à l'étranger. Rêvons.
C'est vrai. Mais bon, c'est une première étape sur ce qu'on demande aussi, effectivement. L'arrêt de vente d'armes aux pays qui massacrent la population, leur population ou d'autres populations.
Et la dénonciation aussi. Ça serait bien, voilà. Dénoncer.
Moi, j'ai une autre bonne nouvelle. Alors là, ça ne parle pas de guerre, mais ça passe au Zimbabwe.
Zimbabwe, comment ça s'appelait dans le temps ?
Oui, parce qu'avant,
on a
fait un quiz avec Vincent pour lui demander comment s'appelait le Zimbabwe.
Le nom avant.
Et c'était la Rhodésie. Voilà, moi j'ai appris ça quand j'étais petit à l'école, ça s'appelait encore la Rhodésie. Donc voilà, au Zimbabwe, une bonne nouvelle, le 17 octobre, la Cour constitutionnelle a décidé d'annuler l'article 27 de la loi relative à l'ordre public et à la sécurité. Et donc l'article 27, je suis sûr que Vincent sait pertinemment ce que c'est de la loi au Zimbabwe. Non, je plaisante. Donc cet article 27 interdisait les manifestations sans autorisation préalable de la police. Ce texte constitue une version actualisée de la loi relative au maintien de l'ordre qui date de l'ère coloniale et servait à réprimer les droits fondamentaux. Voilà, donc une petite explication après dans la chronique.
Alors, le colonial, c'était quel pays en Rhodésie ?
La Grande-Bretagne.
Oh là là, on est trop bon.
C'était une colonie anglaise.
Anglaise, tout
voilà.
À fait, oui.
Bon, il y a un petit texte après qui développe ça, mais bon, l'essentiel, c'est de savoir effectivement que cette loi a été supprimée et que donc maintenant, a priori, si la nouvelle loi est respectée, les Zimbabwéens, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, sont libres de manifester.
Ils n'ont pas obligé, non, ils sont pas obligés de demander l'autorisation à la police.
Oui.
C'est quand même pas mal. Quoi.
C'est ça, c'est ça.
Ben moi, je vais revenir un peu sur le pays donc, dont on parle par rapport au conflit au Yémen, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Et dans le pays même, les conditions des militants et des gens qui sont emprisonnés, c'est quand même assez terrible. Donc, quelques semaines après l'assassinat de Jamal Khashoggi, le royaume de Riyad fait encore parler de lui. Plusieurs défenseurs des droits humains saoudiens, dont des femmes, ont été torturées, harcelées sexuellement lors d'interrogatoires dans la prison de Dabana. D'après trois témoignages, des défenseurs des droits auraient été à plusieurs reprises électrocutés, fouettés, à tel point qu'ils étaient incapables de marcher ou de se tenir debout. Dans l'un des cas signalés, un militant a été suspendu au plafond. Et selon un autre témoignage, une détenue aurait subi des actes de harcèlement sexuel par des agents chargés de l'interroger qui portaient des masques. Une militante aurait même tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours dans cette prison. Ces révélations choquantes faisant état de cas de torture, de harcèlement sexuel et d'autres formes de mauvais traitement dévoilent de nouvelles violations des droits humains commises par les autorités saoudiennes. Elles sont directement responsables du sort réservé à ces femmes et à ces hommes en détention. Non contentes de les priver de leur liberté depuis des mois, simplement pour avoir exprimé sans violence leur opinion, elles leur infligent de terribles souffrances physiques. Les autorités carcérales de la prison de Daban aurait averti les militants qu'ils ne devaient rien raconter à leurs proches au sujet des tortures et des procédures à l'intérieur de la prison. Cette torture sert à réprimer. Plusieurs militants arrêtés de manière arbitraire lors de la répression du mois de mai, dont les femmes qui défendent les droits humains, sont détenus sans inculpation et sans assistance juridique. Ils ont été détenus au secret et placés à l'isolement pendant les trois premiers mois. Parmi ces défenseurs des droits humains, toujours incarcérés dans la prison de Daban, figures des femmes. Alors, je peux vous dire vos noms. Pour moi. Voilà, Loujane Al-Atloun, Iman Al-Navja, Aziza Al-Youssef. Alors, ce sont des femmes qui ont milité, vous avez, si vous nous écoutez régulièrement, par rapport au droit de conduire pour les femmes. Certaines, Iman, c'est une blogueuse. Donc, à partir de ces tortures, ce que veulent les autorités saoudiennes, ce sont des aveux. Et dans les prisons et les centres de détention saoudiens, des actes de torture et de mauvais traitements sont couramment et largement signalés depuis plusieurs années. De nombreux détenus ont déclaré lors de leur procès que la torture était employée pour leur extorquer des aveux. Les punir d'avoir refusé de se repentir ou les forcer à promettre de ne pas critiquer le gouvernement. Et malheureusement, ces aveux sont bien souvent invoqués pour prononcer de lourdes peines, y compris la peine de mort, sans que le système judiciaire ne prenne de mesures nécessaires afin d'enquêter dûment sur ces allégations. Alors, ce qui est demandé, c'est que la communauté internationale prenne des mesures pour faire pression sur l'Arabie Saoudite, ce qu'elle ne fait pas actuellement, afin que ces personnes soient libérées. Et selon certains militants, dont les défenseurs des droits humains qui sont arrêtés, cela amène dans le pays un effet paralysant sur la liberté d'expression, avec un climat de peur déjà bien ancré qui dissuade les citoyens de signaler des arrestations ou d'autres violations. Donc là, c'est vraiment des nouvelles assez dures pour ce qui se passe à l'intérieur de l'Arabie Saoudite.
Oui, enfin, c'est un pays qui est régulièrement mis en ligne de mire, y compris au niveau des États alliés, hein, je pense aux États-Unis, la France aussi, enfin, etc., qui font beaucoup de commerce et de commerce pétrolier avec l'Arabie Saoudite, mais qui est régulièrement accusé. Et que, donc,
bon, ça... Mais il n'y a pas de dénonciation générale parce qu'il y a des intérêts économiques.
Oui, mais enfin, bon. Enfin, le fait de multiplier les mises en accusation, quand même, ça fait avancer des choses. Quoi.
C'est, bah, il faut leur écrire, il faut soutenir les familles, mais c'est très, très dur d'être... parce qu'il faut voir un peu aussi... Voilà, ce sont des militants pour vraiment le droit de conduire ou faire un blog, enfin, des choses qui semblent tellement anodines.
Le droit de conduire pour les femmes en Arabie Saoudite date de cette année, hein, je veux dire.
Oui, mais là, il y a encore des femmes qui ont manifesté.
Ça a été accepté en 2017, des femmes ne pouvaient pas conduire. Je crois que le droit de faire du vélo pour les femmes en Arabie Saoudite n'est toujours pas reconnu. Femmes n'ont pas le droit de faire du vélo. Oui,
le temps passe.
Il y a Edith qui vient de parler beaucoup et qui me montre la pendule.
Ben je me tais.
Oui, donc effectivement, le temps passe. Donc on va passer très rapidement à nos très très vite à nos prochaines à nos informations locales.
Non, moi je voudrais aussi carrément qu'on parle quand même aussi.
Je sais, Edith, j'ai pas oublié, mais je voulais dire qu'on a fin d'émission,
on allait
parler de nos infos locales. Donc vas-y.
D'accord. Alors, on va passer dans les infos locales. Et là, ce dont on voulait parler avec Didier, c'est un peu ce texte qui a été signé à Marrakech. Et ce texte qui est... Je cherche le terme exact, si Didier pouvait m'aider, serait très bien.
C'est le pacte pour une migration... je ne sais plus, j'ai plus le texte sous les yeux non plus, dis donc.
Voilà.
On est perdu dans nos petits
pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Donc ce texte-là, ce pacte-là qui a été signé à Marrakech, a donné lieu sur les réseaux sociaux à vraiment beaucoup d'informations qui semblaient complètement... comment dire, vraiment des fake news, quoi. Je ne trouve pas d'autres termes.
Des infox, ça s'appelle maintenant. Infox.
Moi, j'en ai même parlé.
Information fausse, infox.
Voilà, autour de moi, parce que les gens m'ont dit, oh là là, mais tu ne te rends pas compte. Mais non, attendez, un pacte, c'est absolument, il n'y a absolument rien qui va être obligé. C'est simplement un texte qui a été fait par l'Assemblée nationale des Nations Unies en cet été. Et il s'agit d'un document qui fixe des améliorations, des objectifs pour améliorer la coopération en matière de migration internationale, accompagné de mécaniques et du suivi de mesures. Mais absolument aucune obligation. Alors que ce qu'on a vu, nous, il serait interminable de lister toutes les intox, mais on a reproché à ce texte d'être un préalable à un afflux massif de réfugiés. Mais à aucun moment le texte n'oblige un pays à ouvrir ses frontières. Il ne formule pas de quotas de migration. Il ne vise pas non plus à créer un appel d'air mondial, comme le déplore Éric Ciotti dans le Figaro, mais plutôt de prendre en compte la réalité actuelle. On a aussi dit que c'était mettre en place une censure de la presse. Alors, le député des Républicains des Alpes-Maritimes, donc je pense que c'est le même, ça doit toujours être Éric Ciotti, je pense.
Oui, je crois, oui.
Craint aussi à une censure de la presse sur des questions migratoires. En réalité, le pacte invite à promouvoir une information indépendante, objective et de qualité, y compris sur Internet. Un objectif très flou, mais louable. Et aussi, le pacte dit de cesser de subventionner les médias qui propagent systématiquement l'intolérance, la xénophobie, le racisme et autres formes de discrimination envers les migrants, dans le plein respect de la liberté de la presse. Voilà, aucun risque. Troisième chose qu'on a vu aussi sur Internet, organiser le remplacement des travailleurs. Alors pour certains responsables d'extrême droite, comme le député européen Bernard Monod, le pacte recommanderait le remplacement des Européens par les migrants et favorise l'arrivée de travailleurs immigrés payés à 1 euro l'heure. Le texte dit justement l'inverse, puisqu'il appelle à faciliter l'accès des migrants à un travail décent et une économie formelle. On a aussi vu que ça pouvait braver la souveraineté française. Plusieurs sites et publications s'alarment sur le risque de vendre la France à l'ONU. Ils opèrent un amalgame entre deux actualités, le pacte d'immigration sous l'égide de l'ONU et une suggestion formulée par le vice-chancelier allemand fin novembre consistant à transférer à l'Union européenne le droit de veto français au Conseil de sécurité. Mais cette dernière idée n'a rien d'officiel et ne risque pas de voir le jour. À aucun moment, la souveraineté des pays n'est remise en question par le pacte d'immigration. Donc franchement, c'est un peu ce qu'on avait dit à une dernière radio où j'étais par rapport à Google, par rapport à toutes ces infos qui passent sur les réseaux sociaux. Informez-vous.
Oui, il ne faut pas relayer des informations qui n'ont ni queue ni tête, effectivement. Et là, c'est un gros morceau d'intox au niveau des médias, de certains médias, qui est fait en direction du public.
Oui, mais qui a été balancé très vite dans tous les réseaux sociaux.
Et ce texte va tellement peu changer les choses qu'Amnesty le qualifie déjà de façon de texte qui sera inefficace,
voilà,
et qui ne changera pas la réalité de millions de gens qui sont dans des situations dramatiques en tant que migrants ou réfugiés. Donc non seulement il n'y a aucun danger, mais même en fait le seul danger, il est probablement envers les gens que ce texte
est censé
protéger.
À s'intéresser.
Voilà, c'est exactement l'inverse.
À aider les personnes.
Voilà. On va arriver aux infos locales parce qu'il est 58.
Allez, Didier,
et que nous devons céder la place au laboratoire comme toutes les semaines. Et donc, info locale. Donc le temps que je retrouve ma feuille, voilà. Nous sommes samedi 15, on vous l'avait dit le mois dernier, mais on vous le répète, le samedi 15, on est en soutien, enfin en présence, lors du concert de The Limbos au Cube. Donc c'est au Cube à 20h samedi 15, donc il y aura un stand d'Amnesty avec bien sûr les pétitions des 10 jours pour signer qui seront présentées au public. Et donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer,
voilà, discuter
avec nous.
Ça sera encore plus sympa de venir les signer en vrai.
Voilà. Donc samedi 15, 20h au Cube, concert The Limbos. 10 jours pour signer, donc ils sont reportés pour les lycéens d'Aristide Briand qui nous écoutent, qui sont reportés à la semaine prochaine du 17 au 21. Tous les midis, signature au self, donc si vous êtes lycéen vous-même, n'hésitez pas à venir signer pour les 10 jours pour signer. Et enfin, la prochaine émission, dis donc, c'est le jour de Noël.
Le mardi 25. C'est un beau cadeau, ça, vous en avez
bon,
de la
voilà.
chance.
Donc on sera présent à l'antenne, bon, pour ne rien vous cacher, bien sûr, qu'on va
enregistrer avant,
l'émission quelques jours avant, mais restez à l'écoute, on sera à l'antenne, effectivement. Le mardi 25 décembre en direct.
Allez, bonne
sur l'antenne
soirée
de Principe
à tous.
Actif.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations